Nous ne sommes pas la religion du livre. Nous ne sommes pas la religion du livre. De façon erronée, vous pouvez entendre, soit dans les médias, soit dans la bouche de certaines personnes, bon, les trois monothéismes, les religions du livre. Or, nous, chrétiens, disciples de Jésus, nous ne sommes pas de la religion du livre. Ce n'est pas sur un livre que s'appuie notre foi. Et vous me direz, mais les saints évangiles, oui, mais les évangiles, ce sont des témoignages. Nous sommes la religion de la personne. Et ça, c'est quand même tout à fait différent de toutes les autres religions qui existent de par le monde. Aucune religion prétendrait, par exemple, dire que ce que dit Jésus, le Père l'aimera, si quelqu'un m'aime et gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Aucune religion, quelle qu'elle soit, quelque divinité, quelque esprit, quelque spiritualité, philosophie, prétend que la personne humaine peut être la demeure de cette divinité, quelle qu'elle soit. Aucune. Parce qu'aucune religion n'est une religion de l'incarnation, à la manière du christianisme. C'est important, c'est des choses que l'on sait, etc., qui vous paraissent assez évidentes, mais c'est important de dire que nous sommes la religion de la personne. C'est sur la personne même de Jésus que s'appuie notre foi. Et sur les témoignages venant de personnes, et de personne en personne jusqu'à aujourd'hui, nous croyons. Et cette manière de voir les choses rend la vie chrétienne de façon assez extraordinaire, assez fulgurante. Comment est-ce qu'on peut dire cette parole-là, si quelqu'un m'aime, nous ferons une demeure chez lui? Comment est-ce que Jésus peut oser dire une pareille parole, connaissant notre fragilité, connaissant ce passage de Saint Jean, vous le savez, c'est au moment de la scène, donc c'est vraiment au moment de la passion, donc au moment de la trahison, c'est déjà Judas est sorti, tout ça il le sait. Celui qui m'aime, je le transformerai en ma demeure. Il sera mon tabernacle. Le tabernacle, c'est pas seulement le tabernacle que nous avons ici, hein, avec les saintes espèces. Le tabernacle, on peut dire que par le baptême, nous sommes le tabernacle de Dieu parce que nous sommes habités. La personne qui est disciple de Jésus, c'est une personne habitée. Nous sommes la religion de la personne. Et de ce point de vue-là, ça donne une place au Saint-Esprit tout à fait particulière. Tout à fait particulière parce que comment est-ce que l'on peut dire cette parole-là? Nous ferons chez lui notre demeure. Comment est-ce qu'on peut dire ça? Eh bien, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Et celle qui nous a montré ce chemin, évidemment, c'est la Vierge Marie. L'Esprit-Saint reposa sur elle et elle est devenue la mère du Très-Haut. Voilà. La Vierge Marie, c'est celle qui nous donne cette vision de ce que nous aussi, nous sommes appelés à être, non pas mère du Très-Haut parce qu'il n'y en a qu'une, mais habitée par le Saint-Esprit est devenue tabernacle, présence de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie chrétienne, c'est d'abord une plongée à l'intérieur. Une plongée à l'intérieur. Ce n'est pas tant faire des choses, et c'est vrai que parfois pour des convertis, des jeunes convertis, ou voilà, qui ont récemment converti, et qui découvrent qui est Jésus, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, prépare-toi au baptême. Oui, mais ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, vis de ton baptême. Vis de cette présence du Seigneur. C'est ce qu'on appelle l'inhabitation, c'est un mot un peu compliqué, inhabitation de la Trinité en nous. Vis de l'intérieur. Sois grand à l'intérieur. C'est ça la vie chrétienne. Et donc c'est parfois déconcertant parce que certains disent on aimerait des choses plus concrètes. Il y a d'autres religions où il y a des pratiques, où il y a des interdits alimentaires, où il y a des choses à faire, etc. Oui, la messe le dimanche, mais voilà, ça reste quand même très modeste comme pratique. Mais entre-temps, on est comme tout le monde. Le chrétien, il est appelé à être grand à l'intérieur parce qu'il y a le Saint-Esprit qui habite en lui. Et ça, c'est quelque chose que aucune religion ne croit. C'est important de savoir la différence. Toutes les religions ne se valent pas, certainement pas, même si nous les respectons toutes. Toutes les philosophies ne se valent pas. Et si vous diriez à un juif qu'il est le tabernacle de Dieu, il ferait des sauts comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette idolâtrie, ce blasphème? Bien sûr, tout de suite. Parce qu'il y a la transcendance, c'est le Très-Haut, c'est le Tout-Puissant, c'est le Tout-Autre. Nous le disons aussi. Mais nous disons, par le mystère de l'incarnation, Dieu a rejoint chacun à l'intime, par le sacrement du baptême, et non seulement le sacrement du baptême, parce que la présence de Dieu dans chacun ne se limite pas au baptême, puisqu'il y a des personnes qui se convertissent, c'est-à-dire que le Saint-Esprit aussi touche le cœur des personnes non baptisées, qui ensuite sont invitées à cheminer et parfois à s'approcher de Jésus et à demander le baptême. Et nous reconnaissons aussi que toute personne qui agit bien, eh bien, ce qu'elle fait, sa manière d'agir, nous disons que c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, en elle, baptisée ou pas. C'est fort, hein? Ça donne à la personne humaine, évidemment, une dignité sans égale. Sans égale, je veux dire, ne serait-ce que dans les termes, dire qu'on est tabernacle du Seigneur, présence de Dieu, demeure du Très-Haut, non pas par nos mérites, mais par la grâce de Dieu et par son Saint-Esprit, c'est vertigineux. C'est juste vertigineux. Parce que nous sommes, nous, la religion de la disproportion. Nous sommes la religion de la disproportion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de commune mesure entre ce que nous sommes avec nos faiblesses, notre épaisseur humaine, nos caractères plus ou moins bons, etc., nos fragilités, et puis ce que nous sommes appelés à être, hein, deviens ce que tu es, hein, ça c'est le grand leitmotiv des grands spirituels, deviens ce que tu es. Découvre à l'intérieur celui qui t'habite. C'est le grand saint Augustin qui disait ça, justement. Donc, à qui rions-nous, Seigneur? C'est comme ça que le Seigneur nous invite à faire une plongée en nous-mêmes et par le Saint-Esprit, et en faisant mémoire, c'est assez intéressant, celui qui garde mes paroles, au fond, qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? Jésus le dit plus tard, un peu plus tard, le Saint-Esprit vous enseignera tout. Le Saint-Esprit parle à notre esprit. Et on le voit bien, par exemple, dans la première lecture, parce que vous voyez, c'est qu'au début, des chrétiens se disaient, mais qu'est-ce qu'il faut garder de la loi juive, qu'est-ce qu'il ne faut pas garder de la loi juive, etc. Il y avait tout un... Bon, c'est normal, des hésitations, comme il y en a eu tant dans l'Église, des hésitations, est-ce qu'il faut faire ceci, est-ce qu'il faut faire cela. Et c'était tous juifs à la base, mais est-ce que, bon... Et puis, à un moment donné, c'est osé, hein, l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé, voilà, de ne pas faire peser sur vous les obligations de l'ancienne alliance. L'Esprit Saint, c'est-à-dire que nous prenons conscience, c'est osé de dire ça, c'est, on dirait bien, voire orgueilleux, l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé. C'est-à-dire que cette interprétation de la loi, ce n'est plus des paroles gravées sur la pierre, mais c'est bien dans les cœurs de chair qu'il faut chercher la loi du Seigneur, au plus profond. Au fond, vive du Saint-Esprit s'il nous rappelait l'urgence de la vie contemplative. L'urgence de la vie contemplative, c'est-à-dire l'urgence d'une intériorité. Alors que tout, au contraire, nous fait tendre à travers des forces centrifuges, à aller à l'extérieur de nous-mêmes. Tout nous fait tendre à ça. Eh bien, le Seigneur nous dit, gardez mes paroles, demeurez, demeurez. apprendre à demeurer en lui, dans la prière, dans l'action de grâce, dans le quotidien, de ce jour après jour, ce carpe diem chrétien. Carpe diem, ça veut dire cueillir le jour. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de découvrir sa présence et de découvrir en l'autre aussi une présence et une demeure. Nous sommes présence parce que nous sommes demeure. Il y a quelque chose comme une condition, nous dit le Seigneur, à travers l'Évangile, il nous dit « gardez mes paroles ». Gardez mes paroles, mais au sens fort du terme, c'est-à-dire faites que cette parole habite en vous et vous transforme. Au commencement, il y a une parole, et Dieu dit, toute grande histoire commence par une parole. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Gardez la parole de Dieu, il y a quelque chose à conserver, il y a de l'ordre du trésor à préserver. Pour garder justement cette habitation, cette présence, parce qu'on peut la mettre en danger. Parce qu'aussi cette présence de Dieu, cette ressemblance avec Dieu, eh bien c'est par nos actes que nous accomplissons que peu à peu, elle prend de la place et elle nous transforme. Celui qui ne m'aime pas, dit le Seigneur, ne garde pas mes paroles, et je n'habite pas en lui. Je ne fais pas ma demeure en lui. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à protéger en nous de la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a aussi un combat spirituel. Peu en prennent conscience. Peu prennent conscience de ce combat spirituel qui fait que, justement, on peut vivre à l'extérieur de soi-même. On peut se laisser attirer vers d'autres, par d'autres paroles qui n'est pas une parole qui construit. On peut se laisser attirer par l'esprit du monde, cette modernité qui au fond lutte contre la vie intérieure. Et c'est encore plus vrai avec tous les moyens de communication modernes, etc., où on ne s'ennuie jamais, on prend son téléphone, tac, on regarde, il n'y a plus du tout d'une dimension contemplative. Alors c'est vrai que ça demande un vrai choix dans notre vie. Une vraie décision. La profondeur, c'est le fruit d'une décision. Est-ce que je vais vivre de cette parole qui m'habite, de cette présence qui m'habite? Est-ce que je vais, dans la prière, expérimenter, parce que c'est de l'ordre de l'expérience spirituelle, et c'est là où il y a quelque chose d'indicible, l'expérience spirituelle. Si c'était des choses à faire, ce serait facile. Mais là, c'est de l'ordre de l'indicible. C'est de plonger en nous-mêmes pour découvrir quelqu'un. Non pas la manière de philosophie, par exemple, asiatique, tout à fait respectable par ailleurs, qui invite dans cette plongée intérieure, on voit par exemple dans le bouddhisme, c'est pareil, qu'il y a une philosophie, mais ce n'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas cette dimension de présence d'un autre qui t'habite, qui est en toi et plus grand que toi. Parce que le chrétien, c'est ça. Il porte en lui-même plus grand que lui-même. C'est ça la différence, la définition du chrétien. Porte en lui-même plus grand que lui-même. Quelle grâce, quelle miséricorde le Seigneur nous fait quand il nous donne son Saint-Esprit. Faisons mémoire aussi de ce jour de notre baptême, de ces grâces reçues, de baptême, vous le savez, c'est un peu technique, mais on dit le baptême imprime un caractère dans l'âme. C'est un sacrement qu'on appelle un caractère. C'est-à-dire qu'il y a un sceau qui est imprimé sur le cœur. C'est pour ça qu'on ne peut pas être débaptisé. On peut abjurer sa foi, apostasier, mais on ne peut pas être débaptisé. On regarde l'Église. De même, on ne peut pas être déconfirmé. De même, on ne peut pas ne plus être prêtre, parce qu'il y a un sceau, même le prêtre réduit à l'état laïque, etc., qui ne peut plus exercer le ministère. Il y a un sceau. il y a quelque chose auquel on ne touche pas. C'est ce qu'on appelle l'image de Dieu en nous. La présence par le baptême, par le Christ de la Sainte Trinité. Il y a quelque chose où le mal n'a pas accès. Ah, ça, c'est extraordinaire. Ça. Quelle espérance! Il y a quelque chose en nous qui demeurera intact, quoi qu'il arrive. Alors, on va demander au Seigneur vraiment dans cette Eucharistie, à l'approche de l'Ascension et de la Pentecôte, peut-être plus de prendre conscience. C'est des choses que vous savez par cœur, ce que je vous dis, j'ai pas la prétention de vous apprendre quelque chose de nouveau. Tout ça, nous le savons par cœur. Mais peut-être une prise de conscience, s'arrêter un moment, et dans ce temps de silence que nous allons prendre maintenant, faire cette plongée à l'intérieur de nous-mêmes pour y découvrir celui qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière.